Aujourd'hui, nous accueillons un grand témoin qui nous vient d'origine charentaise, Francis Ganry. Nous sommes ravis de vous accueillir sur Ecclesia, d'autant que vous avez écrit un récit qui nous a interpellés, notamment Michel Archimbault. Vous êtes avec nous aussi, Michel, bonjour.
Bonjour Hélène.
Bonjour Francis.
Bonjour.
Michel Archimbault, vous occupez un peu des liens avec les éditeurs et vous êtes intéressé à un livre que vous avez commandé qui s'appelle « Qui m'a tenu la main le jour de mon certificat d'études, récit d'un témoin du monde paysan et de la foi » paru chez Saint-Léger Éditions.
Tout à fait.
Et pourquoi vous avez voulu ce livre, Michel, qu'on en parle à Radio Ecclésia ?
Eh bien parce que moi, j'ai connu cette période de la guerre. Ça m'a rappelé mon enfance. Quand j'ai lu la quatrième page, ça m'a rappelé mon enfance où effectivement, j'allais dans une ferme et je participais. C'est pas du tout la même chose que notre auteur. C'était beaucoup plus...
En dilettante pour vous.
En dilettant, absolument. Mais ça m'a rappelé mon enfance et à l'âge que j'ai, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir à revenir dans cette enfance. Alors, je ne sais pas si notre auteur a le même plaisir, parce qu'il a, Dieu sait, une enfance qui n'était pas facile. Mais il va nous en parler.
J'apprécie beaucoup vos paroles, hein, parce que dans mon livre, il y a deux points d'entrée principaux. Hein. Il y a l'entrée par le monde rural et l'enseignement, l'importance de l'enseignement qu'apporte la nature, que peut apporter la nature à un enfant, hein, qui fonde en lui après son bonheur, si je peux dire, son bonheur d'adulte, et même voir sa spiritualité. Donc moi j'ai vécu un contact très profond avec la nature, donc, et je pense que vous ne l'avez peut-être pas expérimenté comme moi, mais vous en ressentez encore donc les bienfaits. Et le deuxième point d'entrée, ben, c'est le cheminement spirituel, qui m'est permis par le fait que j'ai écrit ce livre 50 ans après avoir vécu des événements douloureux, comme vous venez de le souligner. Voilà. Mais j'ai vécu une enfance extrêmement heureuse. Nous étions pauvres, mais nous n'étions pas dans la misère. Nous mangeions à notre faim, hein, et nous n'avions pas faim, et c'est la terre qui nous nourrissait. Voilà.
Vous décrivez avec beaucoup de précision la façon dont vous vouliez participer justement à la vie de cette famille pour essayer de soulager votre père et de soulager votre mère. Vous étiez l'aîné ?
Oui, alors j'étais l'aîné, et effectivement. Et une chose m'a profondément touché quand j'étais enfant, hein, et j'étais sensible parce que je voyais mon père ployer sous le travail, hein, sous la pénibilité du travail. Et mon père était quelqu'un de réservé, et parfois je le sentais triste, et il donnait l'impression de vivre intérieurement une souffrance. Et moi, je mettais cela sur le compte que il savait que son exploitation était menacée. Bon, il y avait les gelées, hein, qui venaient détruire la récolte la potentielle récolte de vigne. Hein. Mais je le sentais aussi en souffrance par le fait qu'il savait que son exploitation risquait de disparaître du fait que les petits exploitants, pour survivre, devaient emprunter. Donc les cultivateurs, alors mon père était un petit cultivateur, hein, et les gros cultivateurs à l'époque commençaient à emprunter aux banques, et mon père refusait absolument d'emprunter. Et je me rappelle, à la maison, c'était même des discussions assez vives entre ma mère et mon père, parce que ma mère, elle, aurait été plutôt de l'avant et cherchait à se sortir de cette pauvreté et de ce risque dont ils étaient menacés. Et pour cela, il fallait emprunter. Et emprunter, mon père ne voulait pas parce qu'il savait qu'emprunter auprès d'une banque, c'était prendre le risque de ne pas pouvoir rembourser. Et ça, bon, je pense qu'il devait en permanence avoir ça en tête. Et au-delà peut-être d'autres problèmes dont je fais état dans mon livre, hein, mais je pense que c'est la raison principale qui l'a conduit à son désespoir.
Cette façon aussi vous étiez obligés, eux, votre maman et votre papa, d'aller travailler chez les autres.
Oui, Oui, au niveau, sur le plan social, n'avaient droit à la sécurité sociale, donc au remboursement des frais médicaux, que les personnes qui étaient employées. Voilà, donc il fallait.
Donc le propriétaire n'avait pas le droit.
Le propriétaire, ils avaient une assurance agricole. Et donc mon père devait se faire opérer d'une hernie, dont il souffrait effectivement beaucoup. Et moi, je devais me faire opérer de l'appendicite. Et pour cela, mon père a dû partir chez un régisseur, bon, qui était son neveu. Hein, donc, mais il a dû partir comme ouvrier agricole. Donc être salarié pour bénéficier de la sécurité sociale. Donc ça, là aussi, c'était assez dramatique pour mon père, quoi, parce que le paysan est fier. Et de devoir être ouvrier, bon, il ne le disait pas, mais je pense qu'intérieurement, il devait en ressentir une forme, pas d'humiliation, mais presque. Quoi.
Ça se sent dans votre livre.
Oui, je pense, oui.
Oui, ça se sent. Oui. On voit bien qu'il y a deux périodes. La période où il travaille avec votre maman, de façon importante, etc. Et tout d'un coup, il faut qu'ils aillent travailler chez les autres. Et
travailler chez les autres. Alors déjà, pour le matériel, il fallait emprunter du matériel. Il fallait emprunter le matériel. Et emprunter le matériel, ça voulait dire aussi aller travailler chez le propriétaire de ce matériel. Parce qu'il n'était pas question de payer donc une location. Donc mon père, s'il empruntait une machine à sulfater les vignes, eh bien, la personne qui lui prêtait cette machine recevait de lui un travail. Donc il allait chez cette personne payer son...
Un genre de troc, en fait.
Oui. Alors ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par rapport à l'emprunt, c'est que on voit aujourd'hui que le monde paysan est toujours, vit toujours un drame par rapport à l'emprunt. Mais c'est parce que les paysans ont emprunté et qu'ils ne peuvent plus rembourser. Donc l'emprunt, finalement, ça a toujours menacé. Et mon père avait finalement raison de pressentir le risque de l'emprunt, puisque actuellement, beaucoup de paysans sont en difficulté, voire mettent fin à leur jour, parce qu'ils ne peuvent plus rembourser leurs prêts par rapport aux banques. Donc il y a toujours cette réalité de la souffrance paysanne par rapport à l'emprunt.
C'est ça. Voilà. Donc, c'est une question qu'on voulait vous poser avec Hélène. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre la vie de vos parents et la vie des agriculteurs aujourd'hui ?
Oui. Alors, il y a un parallèle par rapport à l'emprunt, effectivement. Il faut absolument sortir le monde paysan de cette subordination qui les lie aux banques, hein, actuellement. Redonner de la dignité aux paysans en faisant qu'ils puissent vivre directement des produits de leur terre. Et deuxièmement, le parallèle, c'est que mon père était un agriculteur bio avant l'heure.
Oui.
Et il m'a formé à des pratiques agricoles, alors que j'ai pu mettre en œuvre, alors après, par la suite, dans mon travail d'ingénieur agronome en Afrique. Mais disons que les fondements de ces pratiques, je les ai acquises par mon père. Hein, mon père, par exemple, avait fait des toilettes sèches.
Oui.
J'en étais très fier quand j'étais petit, parce que je pense que nous étions les seuls dans le village à avoir des toilettes. Et moi, j'aimais bien y aller dans ces toilettes. C'était un lieu sec, au sec, un lieu propre. Hein. Et donc, il récupérait la matière, si je puis dire, qui était mélangée à de la sciure de bois ou à de la cendre. Et il en faisait un compost après sur le tas de fumier ou directement, il l'utilisait dans la terre comme amendement. Voilà. Donc, l'agriculture bio... Et actuellement, donc, l'agriculture bio ne fait qu'à, finalement, applique ce que mon père faisait, c'est-à-dire la fumure organique des terres et la bouillie bordelaise pour traiter les vignes, quoi. Donc, pas de pesticides.
Et vous dites que vous étiez les premiers à avoir des toilettes sèches.
Oui.
Justement, est-ce que votre père, par ses techniques d'agriculture biologique, est-ce qu'il avait des personnes qui le suivaient ou est-ce qu'il était très seul ?
Ah, il était seul, absolument.
Voilà, c'est bien le sentiment que j'en avais.
C'est-à-dire que mon père, comme je dis... Alors, mon père s'est suicidé. Et donc, il s'est suicidé. C'était une rupture totale, hein, dans notre vie. Hein. Alors, ça, c'est un autre point d'entrée de mon livre, hein, peut-être. Mais parce que mon père était un homme cultivé. Il était extrêmement doué à l'école. Il aurait voulu faire des études, mais il en a été empêché pour des raisons familiales. Et mon père s'était instruit sur les pratiques agronomiques qui étaient déjà connues, hein, depuis le début du XXe siècle, hein, sur l'intérêt des légumineuses dans la rotation, la pratique de la fumure organique. Et mon père le savait, il le mettait en pratique. Voilà. Donc, il n'était pas suivi, non, Non, pas spécialement, non. Non.
Mais ce n'était pas dans son tempérament de se mettre en avant.
Non, il ne voulait pas se mettre en avant. Non, il était très, très réservé. Et donc, il souffrait même d'une certaine niaiserie de, certains de ses voisins. Quoi.
Oui.
Voilà.
Oui. Moi, ce qui m'a émerveillée dans votre histoire, de ce que j'ai pu en lire, c'est que vous étiez un rêveur. Vous aimiez faire des cabanes. Vous aimiez peindre aussi.
Oui.
Oui.
C'est important dans votre... Avant le décès de votre papa, vous aimiez bien tout cet aspect-là. Ça vous nourrissait plus que l'école. L'école, vous le délaissiez un peu, mais ouais. Vous étiez plutôt à l'école de la nature, d'une certaine manière.
Ah ben oui. Ah oui. L'école de la nature, oui. Puisque l'école communale, je n'aimais pas l'école communale. Sauf une fois où le maître a été remplacé par une maîtresse qui était extrêmement jolie.
Je m'en doutais que vous alliez dire ça.
et alors là, j'allais à l'école vraiment
avec joie.
Oui, oui. Mais comme on peut tomber amoureux, alors d'un amour très platonique, mais très fort, à l'âge de 12-13 ans. Quoi. Mais enfin, donc, cette petite anecdote de côté, donc, ma véritable école, c'était l'école de la nature. Et donc cette école de la nature a imprimé en moi une perception d'une immanence, d'un esprit supérieur, enfin, qui m'apportait de la joie. Quoi. Mmh. Alors je ne disais pas que c'était Dieu, puisque Dieu, on ne m'en parlait qu'au catéchisme, et le catéchisme, j'étais plutôt rétif au catéchisme. Hein. Mais je ressentais, alors je vais le dire, l'immanence de Dieu dans la nature. Et donc cette joie, j'arrivais à la transcender dans la peinture. Et je suis effectivement tout seul, hein, sans avoir pris des cours d'art, hein, sauf peut-être à l'école primaire, hein, où on m'a appris à dessiner les perspectives. Hein, mais le fait de peindre un paysage, une rivière, un coucher de soleil, me permettait de transcender cette joie que j'éprouvais dans la nature.
Voilà. Alors, deux choses. Cette joie, vous la retrouviez ensuite dans vos études supérieures. Ça vous a permis de vous reconnecter et oui. Vous étiez déchiré. Mais juste avant, j'aimerais qu'on reparle de ce moment de rupture. Ça a été important pour vous ensuite que des membres de votre famille vous entourent et vous aident à aller jusqu'à ce fameux certificat d'études. Et un peu cette aide de votre tante, de l'instituteur.
Oui.
Ça a été quelque chose de, pour vous qui vous a sorti. Vous étiez sinon perdu, enfin, d'une certaine manière... Vous auriez pris le chemin de rester sur la ferme et de passer à côté de compétences, de capacités qui étaient en vous.
Oui, oui, oui. Si j'avais suivi mon profond désir de rester à la terre, de cultiver la terre, de prendre la suite de mon père, c'est sûr que je risquais de passer à côté, peut-être de ne pas retrouver un jour la foi, quoi. Et le bonheur d'avoir découvert l'Évangile. Parce qu'il m'a fallu cette épreuve... pour que plus tard je fasse des recherches bibliographiques, si je puis dire, dans les livres, mais aussi une recherche intérieure,
une
introspection, pour essayer de comprendre alors, des événements assez surprenants, voire mystérieux, qui m'ont été donnés de vivre au moment de la mort de mon père. Alors, mon père s'est suicidé, et je dois dire que j'étais en grande souffrance, puisque c'est moi qui l'ai trouvé le matin de bonne heure, pendu à une poutre. Hein. Voilà. Donc j'avais 13 ans et demi, donc le choc a été absolument terrible, toute ma famille bouleversée, et le lendemain, j'ai reçu comme une révélation qui s'est imposée à moi, qui m'a apporté une sérénité, et une voix m'a dit, Francis, ne souffre pas, ou ton père, tu le reverras un jour. Alors ça, c'est absolument une certitude, cela m'a été dit en moi. Ton père, tu le reverras un jour. Alors, moi qui étais anticlérical, qui avais fait les pires misères à mon curé, et jamais chez moi, on m'a dit, Francis, tu sais, ton père, il est mort, mais il est monté au ciel, non. C'est quelque chose qui était extérieur à tout cela. Hein. Ça s'est imposé à moi. D'ailleurs, ça a été un secret. Je n'en ai parlé à personne. Alors, cette révélation que j'ai eue le lendemain de la mort de mon père, je l'ai ressentie après à la sortie du cimetière. Et ça m'a donné une force incroyable pour surmonter tous ces événements.
Ça vous a permis comme de surfer.
De surfer. Et puis surtout de me donner cette force de dire, ben, tu ne vas pas passer ton certificat d'études, tu vas rester, voilà, tu vas prendre la suite de ton père. Alors ça, c'était pas comme, oui. Je reviens sur ce que vous m'avez dit, il n'était pas question pour ma famille, pour ma mère, et pour ma tante, dont je parle dans le livre, et pour l'instituteur, il n'était pas question que je reste donc pour travailler la terre. Il fallait absolument que je passe certificat d'études, et après on verrait bien. Mais il fallait que je passe certificat d'études. Alors j'y suis allé, mais donc 3 jours après les obsèques, hein, j'y suis allé, mais à reculons, un peu contraint. Et alors là, ce fut une journée absolument mémorable, parce que j'ai trouvé toutes les matières, arithmétique, dictée, rédaction, sciences, mais d'une facilité incroyable. Donc, le soir, au moment de la prononciation des résultats, Francis Ganry, premier prix cantonal rural. Alors là, j'ai dit non, c'est pas possible, il y a une erreur. Mais c'était comme ça, j'avais le certificat d'études. Mais en plus, je l'avais haut la main, quoi, avec un prix. Et mon instituteur n'avait sans doute pas eu de prix, enfin à ma connaissance, depuis plusieurs années, dans son école. Et c'était grâce à moi que l'école communale de Ménac pouvait se glorifier d'avoir eu un prix. Voilà. Bon, alors. Et alors, je me rappelle avoir dit à ma mère le soir, tu sais, j'ai eu l'impression qu'on me tenait la main. Et ça ne m'a pas quitté. C'est vrai que j'avais cette impression, d'où le titre de mon livre, « Qui m'a tenu la main le jour de mon certificat d'études ?» Il y a quelqu'un qui m'a tenu la main ce jour-là. Alors, bon, c'était comme ça, hein, j'avais 13 ans et demi. Hein. Et alors, après, dans ma petite tête d'adolescent, il se trouve que mon père, la veille au soir, donc il s'est suicidé le matin vers les 5 heures, la veille au soir, il m'a fait ma rédaction. Et c'est un peu comme s'il m'avait tenu la main. Et alors, j'ai fait une relation... Bon, c'est mon père qui m'a tenu la main.
Vous vous souvenez de quoi parlait cette rédaction ?
Non. Et j'aimerais bien.
Oui, c'est fou non. Ça.
Ouais.
Et votre père, vous avez désarçonné aussi par sa réaction ce soir-là. Vous seriez attendu à ce qu'il soit un peu bougon, peu ?
Ah oui, il était apaisé. Alors, peut-être avait-il déjà conçu l'idée qu'il allait se mettre fin à ses jours, je ne sais pas.
Et surtout que dans votre famille... Vous mettez en avant votre frère cadet.
Alors, le frère cadet, lui c'était mon contraire, tout à fait. Parce que lui, il adorait l'école. Et je me rappelle... Alors, il était extrêmement doué à l'école.
Oui.
Et une fois, il est revenu d'ailleurs du collège de Cognac. Il était presque en pleurs parce qu'au lieu d'avoir eu le prix d'excellence, il a vu que le premier prix d'honneur. Ah oui, alors lui, il était... Et c'est... En fait, je pense que mon père devait être comme cela quand il était plus jeune. Donc, quelqu'un qui aimait l'école, qui aurait voulu continuer ses études. Alors, contrairement à moi, qui n'aimais pas l'école. Mon école, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était l'école de la
N'empêche
nature.
N'empêche que c'est vous qui avez eu le premier prix communal.
Alors, oui.
Et pas votre frère.
Oui, mais alors lui, il était déjà au collège. Hein.
Mais à l'époque, il a quand même passé ce brevet, non ?
Au collège, on ne le passait pas. Il a dû le passer, oui. Mais parce que lui, il était rentré. Moi, je n'étais pas assez doué à l'école communale. Et donc, vous, Madame Archambault, vous devez vous rappeler de cela, puisqu'on a à peu près le même âge. Et donc, on passait le certificat d'études. Et on allait au collège que si on était parmi les premiers à l'école communale.
Voilà.
Donc, moi, je n'avais pas été choisi par l'instituteur pour aller à l'école au collège parce que je n'étais pas assez doué. Mon frère était doué. Donc, il avait été sélectionné dans l'école pour aller au collège. Donc, il a fait la 6e, la 5e, la 4e. Voilà. Donc, mon frère était déjà à l'école.
Mais alors, vous obtenez haut la main votre certificat.
Ah ben oui.
Et ensuite, vous dites, bon, c'est bon, ben, je retourne sur la terre. Mais non.
Et non.
Et non.
Et non. Francis, tu vas aller passer ton concours d'entrée en 4e, dans un collège technique.
Donc, vous rattrapiez votre frère.
Je rattrapais mon frère, finalement. Oui.
Et vous êtes allé passer ce concours et ça s'est bien passé.
Ça s'est bien passé, oui.
Incroyable.
Alors, je ne me rappelle même plus, mais ça s'est bien passé, oui.
Et là, vous avez fait des études.
Et là, j'ai fait des études. Alors, ça a commencé par des études techniques. Hein. J'étais dans un collège technique. Et après, comme j'étais relativement bon à l'école, j'ai pris la filière mathématiques techniques. Donc, j'ai passé après un bac mathématiques techniques.
Et votre frère, vous avez donné un coup de main l'été précédent.
Alors, mon frère, mais oui, mon frère, ça a toujours été mon mentor. Hein. Même à l'école primaire, parce que comme j'étais pas bon à l'école, à l'école primaire...
Vous aviez combien d'écart entre vous deux ?
11 mois.
Ah, comme moi et ma sœur aînée, c'est drôle.
Oui, 11 mois.
Et ma sœur aînée n'aimait pas l'école. raffolais de ça. Donc, il vous avait tenu la main parce que dans certaines matières, vous aviez des lacunes importantes dans l'anglais, il me semble.
Alors, il m'a, bah oui, parce que je suis rentré en quatrième. Donc, j'avais une lacune importante en anglais et en algèbre. Donc, le proviseur ou le principal du collège avait dit à ma mère, il faudra que votre fils, Francis, donc moi en l'occurrence, prenne des cours de rattrapage en anglais. Mais c'est pas parce que j'étais super doué, ça se faisait à l'époque. J'ai eu d'autres copains ou copines d'école qui sont rentrés en quatrième technique après le certificat d'études. Cela dépendait de la réussite au CEP, certificat d'études, et puis de ce concours d'entrée en quatrième, quoi. Mais il fallait prendre des cours de rattrapage en anglais et en algèbre.
Et votre frère.
Et c'est mon frère qui m'a aidé.
Et votre mère. Et on vous avait envoyé dans une maison de repos et votre mère avait été embauchée par cette maison.
Alors, on nous a envoyé pendant les vacances qui ont suivi le drame, le suicide de mon père, dans une maison de repos. Voilà. Donc, et là, ma maman a eu beaucoup de difficultés. Mais ça c'est un autre. Ça pourrait faire l'objet d'un autre roman ou d'un autre témoignage, quoi.
On va se retrouver dans un moment, Francis Ganry et Michel Archimbault, pour continuer de parler de votre récit de vie. Merci beaucoup d'être avec nous et à tout de suite. Notre invité dans Le Grand Témoin d'Ecclésia, Francis Ganry, vous avez écrit un livre, Le Récit de votre vie, qui m'a tenu la main le jour de mon certificat d'études, Récit d'un témoin du monde paysan et de la foi. C'est paru aux éditions Saint-Léger. Et on est avec vous. On regarde un petit peu ce qui a forgé votre vie, une enfance heureuse, une rupture importante au moment du suicide de votre papa, ensuite une expérience spirituelle qui vous a permis d'entendre une voix qui vous disait, qui venait pas de vous, qui venait pas de votre milieu culturel ni familial, tu reverras ton père. Et ensuite une réussite au certificat d'études. C'est comme ça qu'on dit.
Oui,
hein.
Certificat d'études primaires, oui.
Une réussite incroyable. Et ensuite, vous prenez le chemin du collège et vous vous retrouvez dans des études supérieures. Mais vous étiez comme divisé en deux. À la fois, vous étiez heureux de ces succès scolaires, hein, parce que ça allait bien, vos études. Ouais. Et en même temps, vous étiez malheureux parce que vous n'y trouviez pas vraiment de bonheur. Et vous avez eu la joie d'avoir de bons camarades. De bons amis. Est arrivé mai 68, une période de rupture aussi dans vos études, oui. Une période qui vous a un peu mis à part, à l'écart. Mmh. Et pour vous, en tout cas, ça vous a ouvert comme un espace-temps. Mmh. Et aussi être avec de bonnes fréquentations. Cet espace-temps vous a permis une relecture et peut-être aussi une certaine harmonisation intérieure.
Oui. Alors, il est vrai que j'avais ce secret en moi, de cette révélation que j'avais reçue donc le lendemain de la mort de mon père, et cela me donnait une force incroyable, hein, toujours, hein. Mais en faisant des études, je me disais de plus en plus, mais Francis, mais réfléchis un peu, est-ce que c'est pas ton imagination qui a joué pour toi et qui t'a permis de surmonter, est-ce que tu penses que c'est ton père ou que c'est l'Esprit Saint ou que c'est le bon Dieu, mais est-ce que c'est pas ton imagination? Alors je commençais à douter de plus en plus, et le fait de ne renoncer au côté divin de cette révélation, c'était un peu comme si je perdais une deuxième fois mon père, quoi.
Oui.
Parce que c'est lui qui m'avait permis effectivement de cette source de joie intérieure, quoi. Et alors j'arrivais à Nancy après avoir fréquenté les témoins de Jéhovah, enfin ça je le raconte dans le... Alors ça a été un échec, mais ils m'ont quand même mis dans la tête une chose et qui m'a trotté longtemps dans la tête, et même un petit peu encore, mais moins, enfin pas du tout même. C'est qu'après la mort, on était endormis et qu'il ne pouvait pas y avoir de relation entre les morts et les vivants. Ça, et alors, il se basait là-dessus, sur
Donc ça venait un petit peu en contrecarré votre... C'est comme si vous aviez une poussière, vous étiez comme une huître, et cette poussière, vous la suciez, ça devenait une perle, oui. Une perle source d'énergie. Et à côté de ça, on vous dit, non, cette perle-là, tu la jettes, et oui. Prends plutôt cette poussière-ci, il n'y a rien après la mort.
Il n'y a rien après la mort, oui.
Il n'y a pas de...
Alors, les témoins de Jéhovah je ne sais plus après s'ils croient, mais ce qui est sûr, c'est que pour eux, donc Jéhovah, quand il viendra... Il y aura la résurrection sur la terre et les morts vont ressusciter. Mais en attendant Armageddon, donc ce fameux jour, les morts sont morts. Hein. Il y a plus de connexion, pas question de la communion des saints.
Donc vous arrivez à Nancy avec alors j'arrive cette à Nancy, croyance-là, mais
je
en même
suis...
temps, vous avez deux croyances.
C'est pour ça que Jean-Michel, donc ce copain que je rencontre à Nancy, en mai 68, donc me dit « Francis, tu as l'air triste toujours ». Bon, sympathisé, donc on parlait, mais il me dit tu te montres souvent à l'écart des autres, alors que lui, Jean-Michel, était quelqu'un d'extrêmement joyeux et qui allait toujours vers les autres et qui avait une joie communicative, quoi. Et moi, j'étais malheureux. Alors, Jean-Michel m'a beaucoup parlé. Et il m'a dit « Francis, il faudrait que tu m'en dises un peu plus sur ton passé ». Alors je lui ai parlé de mon passé et il m'a dit « il faudrait… » Sans tout lui dire. Ce secret-là, je ne pouvais pas le dire.
Vous aviez trop peur qu'on vous le…
Trop peur que de le dire, on me dise…
Il part en éclat.
Oui. Voilà. Et donc, mais je lui ai beaucoup raconté sur mon enfance dans l'enseignement de la nature. Et Jean-Michel m'a dit, il faut que tu fasses une introspection de ton enfance, parce que je pense que ces élans de bonheur que tu ressens quand tu vas dans la nature, quand tu vas dans les Vosges, hein, je lui disais, hein, je ressens un bonheur immense. Et aussi, même envers certaines personnes qui souffrent, je ressens une immense émotion, presque des fois envie de pleurer devant la souffrance des autres, alors que je suis incapable de faire ce que tu fais, toi, Jean-Michel, d'aller visiter les malades. Voilà. Alors, parce que lui, il allait visiter les malades, hein, malgré ses études, hein, qui accaparaient pas mal quand même. Hein, et donc, j'ai fait ce travail d'introspection. Cela m'a permis, moi, de comprendre, effectivement, que j'avais des racines qui était inéluctablement lié à mon enfance et que ses racines nourrissaient mon bonheur actuel, quoi. Et Jean-Michel m'a dit aussi il faudrait lire un certain nombre de livres pour que tu puisses comprendre ce que le message évangélique pourrait t'apporter.
Ah ouais, donc il vous ouvrait un peu la porte.
Oui.
À l'église, d'une certaine manière. En tout cas, au moins, oui. La Bible que vous avez
mis. Et puis, il y a aussi les rencontres. Bon, alors, je vais parler de ces livres et les rencontres aussi. Alors, il m'a fait rencontrer un père dominicain qui m'a absolument séduit, puisque ce père dominicain nous a montré, puisque je n'étais pas le seul, la relation absolument indiscutable qu'il y a entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc ça fait appel bien sûr à des connaissances bibliques très très approfondies, mais lui il l'expliquait très bien dans une pédagogie très communicative. Et aussi m'a fait rencontrer le père Duval, donc ce prêtre chanteur. Alors le père Duval, vraiment je vous invite, vous le connaissez, mais je vous invite à l'écouter, le réécouter. Le père Duval, c'est l'Évangile en chanson. Toutes ces chansons, c'est l'Évangile. Alors là, le père Duval, il m'a bouleversé aux larmes. Hein. Alors je suis même allé le voir en concert, il m'a dédicacé ses disques. Et aujourd'hui encore, j'écoute souvent les chansons du père Duval. Quoi.
Il me semble que vous avez aussi croisé Félix Leclerc.
Ah oui, Félix Leclerc. Alors,
grâce fibre québécoise, qu'est-ce que vous voulez?
Ah ben oui, grâce à Jean-Michel. Hein. Ah ben oui, Jean-Michel. Moi, mes souliers, Le Petit Bonheur. Voilà. Et alors, les deux livres que Jean-Michel m'a demandé de lire, c'est les deux auteurs, c'est Joseph Thomas et André Sève. Voilà. Et alors, ces livres ont marqué vraiment le début de ma conversion totale à l'Évangile. Alors là, je vais lire ce que peut représenter pour quelqu'un qui est à la recherche de la vérité, ce que peut représenter un livre. Et c'est Christian Bobin que je vais citer. Peu de livres changent une vie. Quand ils la changent, c'est pour toujours. Des portes s'ouvrent que l'on ne soupçonnait pas. On entre et on ne reviendra plus en arrière. Voilà. Alors, pour moi, ces deux livres, je ne suis plus revenu en arrière. Et grâce à Jean-Michel et grâce à ces deux auteurs, j'ai eu la certitude que la vérité était dans l'Évangile. Et ça, depuis 1968. Voilà. Et pour moi, c'est indiscutable. Même si je ne suis pas un bon chrétien, je pense, un pratiquant. Voilà, mais j'ai au moins cette certitude. et je mourrai avec cette certitude que la vérité est dans l'Évangile.
Vous dites que vous n'êtes pas un bon chrétien, mais moi je souhaiterais que vous nous parliez un peu de votre carrière. Vous êtes allé en Afrique, vous avez oui. beaucoup donné, je pense.
Alors là, oui, c'est un aspect important. C'est que je faisais des études d'agronomie, d'ingénieur agronome, et commençais déjà les débuts des techniques d'intensification agro-industrielle. Moi, je n'étais pas très satisfait de travailler pour des exploitations, par exemple, d'élevage, de vaches laitières, qui allaient produire, on amenait des vaches à produire trois fois plus que ce que produisait une vache qui paissait au pré, quoi, dans le pré, hein, par des aliments artificiels. Donc, c'est vraiment l'intensification agro-industrielle. Et j'ai senti un appel à aller travailler donc, pour les pays du Sud, en Afrique, là où vraiment les agriculteurs, les paysans, avaient besoin de connaissances pratiques pour améliorer les conditions de production agricole, notamment satisfaire à ce qu'on disait à l'époque, à l'autosuffisance alimentaire, quoi. Qu'ils puissent au moins manger, quoi. Parce que nous, on mangeait à notre faim en France, hein. Donc les ingénieurs agronomes, on n'en avait pas trop besoin. Sinon, pour produire plus, pour faire accroître les revenus et que la France puisse exporter encore plus de lait, de blé, etc.
Et pour faire ça, en empruntant plus aussi.
Et en empruntant plus aussi.
Voilà. Mais vous êtes retrouvé embauché par une entreprise qui vous a envoyé en Afrique. Comment vous avez fait ?
Alors, ça, j'ai fait... D'abord, c'est par mon service militaire. Donc, je ne voulais pas faire de service militaire. Donc, j'ai fait la coopération militaire dans un organisme de recherche, l'IRAT à l'époque, l'Institut de Recherche en Agronomie Tropicale, donc qui m'a affecté en Afrique, au Sénégal. Et c'est une fois donc en Afrique, au Sénégal, où j'ai été conforté dans mon poste, dans le poste que j'occupais provisoirement comme chercheur en agronomie. Et donc j'ai continué à travailler dans cet institut. Et après, l'institut donc est devenu le CIRAD, qui est devenu pour moi mon institut de recherche définitif jusqu'à ma retraite, quoi. Donc un centre de recherche en agronomie tropicale.
Donc vous avez vécu là-bas ?
Alors j'ai vécu là-bas 20 ans au Sénégal. Et après je suis revenu à Montpellier, au CIRAD, où ayant obtenu donc un doctorat d'État qui m'a permis d'encadrer après des formations universitaires.
Vous avez été heureux de revenir en France ou ça a été pour vous un déchirement de quitter le Sénégal? Parce que 20 ans au Sénégal, on finit par s'y attacher, s'acclimater, s'inculturer.
J'aurais voulu rester au Sénégal, mais ce n'était pas possible car mon institut de recherche allait m'affecter dans d'autres pays. Hein. Et moi, je voulais continuer à travailler pour l'Afrique, et l'Afrique de l'Ouest notamment. Et pour cela, il fallait que je revienne en France.
D'accord.
Voilà. Alors après, une fois en France, j'ai pu encadrer, comme je le disais, donc des formations universitaires d'Africains, principalement, de Français aussi, mais d'Africains qui ont pu obtenir des doctorats. Cela, ça m'a apporté beaucoup de satisfaction, puisque je formais des jeunes Africains à prendre le relais des Européens qui travaillaient quand j'étais affecté. En majorité, les chercheurs en agronomie étaient des Européens. Mais depuis, les Africains ont pris le relais, hein, et fort heureusement. Donc j'ai contribué à ce passage de relais.
C'est un beau passage, voilà.
Tout à fait dans la lignée de l'Évangile.
Oui, oui, oui. Oui, oui. Non, alors ça, malgré moi, mais...
Non, c'est pas malgré vous.
Oui, non, c'est pas malgré moi, mais effectivement, je ne pouvais pas, comme lorsque j'étais étudiant, je ne pouvais pas supporter cette incohérence entre la science et la Bible. La science, enfin, la Bible des témoins de Jéhovah qui disait qui sont des fixistes, hein, des créationnistes, je ne sais pas, voilà. Et qui pensent que l'homme a été créé, le monde, a été, la Terre, l'univers a été créé il y a 10 000 ans, 15 000 ans. Quoi. Comme il est dit dans la Bible, parce qu'ils interprètent la Bible à la lettre. Hein. Et alors, moi qui faisais des études de biologie, de géologie, donc, et qui apprenais que l'homme résultait d'une évolution sur plusieurs millions d'années, Donc, il y avait une incohérence totale. Hein. Pour moi, l'homme, il est apparu suite à une évolution qui a commencé par des êtres unicellulaires. Puis après, bon, les poissons, les batraciens, bon, même si on peut discuter sur cette forme de l'évolution. Mais il est clair que l'homme n'a pas été créé il y a 15 000 ans, quoi, comme il est dit dans la Bible. Alors, ça a été écrit à l'époque de la Bible, donc dans la Genèse, parce que les gens de l'époque, bon, il fallait leur parler de cette façon. Mais il y a un autre sens, bien sûr, biblique dans la Genèse. Il faut l'interpréter. Voilà. Alors, quand j'étais étudiant, cette incohérence entre... je ne pouvais pas la supporter, donc il fallait que je vive en paix avec moi-même, quoi. Entre la Bible et la science. Et puis après, dans mon travail également. Donc pour moi, contribuer à augmenter la production laitière en triplant... En faisant des vaches qui n'étaient plus des vaches, hein, mais des machines à produire, ça je ne pouvais pas le. Voilà.
Vous préfériez retourner, donc donner un coup de main à des agriculteurs au Sénégal, donc.
Oui. Alors au Sénégal et après une fois à Montpellier, alors j'ai contribué à encadrer donc des formations de Maliens, de Burkinabés, de Nigériens.
Et eux sont pas dans cette optique de toujours plus.
Ah non, 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 non.
Ils ont un côté, je pense, beaucoup plus inné, bio et respect de l'environnement.
Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a quelques exploitations, alors, des exploitations agro-industrielles, café, cacao, coton, mais moi, je travaillais plus avec l'agriculture paysanne, disons, traditionnelle, quoi. Parce que les paysans, en fait, le paysan africain, il a déjà les ressources pour produire de façon bio. Il a une façon de gérer, par exemple, les animaux et de récolter le fumier pour en faire de la fumure organique. Alors nous, ce qu'on peut leur apporter, c'est la façon d'améliorer ce fumier, par exemple. Voilà, ce que faisait mon père, finalement.
Voilà.
Comment ? Alors, plutôt que d'avoir du fumier qui a une qualité, mettons, sur une échelle de 1 à 10, une qualité de 2 ou 3, moi, je leur disais, vous pouvez faire un fumier qui a une qualité de 9, quoi, sur 10, avec vos moyens.
Et ça leur allait.
Et ça leur allait. Il ne faut pas leur parachuter des moyens trop sophistiqués et nouveaux, surtout des moyens onéreux. J'ai même, avec une équipe, hein, avec des collègues, on a introduit le biogaz dans les années 78-80. Le biogaz dans les villages africains. À partir...
Très en avance.
Oui. On a fabriqué des petits fermenteurs biogaz qui permettaient de soulager les femmes. Parce que moi, j'avais été vraiment surpris et peiné de voir que c'est les femmes qui avaient la corvée du bois et la corvée de l'eau. Mais surtout la corvée du bois, qui allait chercher le bois, des fois, qui faisait plusieurs kilomètres, pour faire la cuisine. Bon, c'est pas pour se chauffer, mais surtout pour faire la cuisine, quoi. Et leur apportant dans leur exploitation, on appelle ça le carré, donc la possibilité de produire du gaz, c'était un progrès extraordinaire. Voilà.
Vous aviez connu votre mère faisant la lessive à la main.
Oui.
Et vous avez connu donc ces travaux pénibles. Donc il y a un côté où ces travaux, quand on peut les rendre moins pénibles avec des moyens respectueux, c'est même important de les mettre en œuvre.
Oui. Et ces travaux... Ils reviennent à la mode, comme on dit. Hein.
C'est ce que j'allais dire. Vous êtes tout à fait dans la lignée de Laudato Si.
Oui.
Vous étiez en avance.
Oui. C'est ça. Et c'est un peu ce que j'ai voulu dire dans mon livre. Hein. C'est que mon père appliquait une agriculture qui revient maintenant sur le devant de la scène. Hein. Quand vous achetez bio, eh ben, c'est cet agriculteur-là que pratiquait mon père. Et si, là où il est, ben il doit sans doute penser que, eh ben il est peut-être pas mort pour rien, quoi. Voilà.
En tout cas, moi je veux revenir à votre époque là. Vous avez rencontré votre ami
Jean-Michel.
Vous a aussi dit une phrase quand vous n'étiez pas toujours très heureux. Si vous avez quand même pris conscience que le bonheur, vous pensiez le trouver dans les études, vous le trouviez pas dans les études.
Oui.
Vous avez dit une phrase où il parlait du sillon, hein, le bonheur.
Oui. Alors le bonheur est comme un sillage. Il suit fidèlement celui qui ne le poursuit pas.
Ouais. Donc.
Alors c'est de Louis Evely.
Oui.
Là, donc qui était un prêtre belge qui a beaucoup écrit et que Jean-Michel m'a invité à lire et à relire. Alors, ce prêtre a écrit un livre qui s'appelle « Souffrance ». En fait, quand on lit le livre, on est heureux, on ne souffre pas.
C'est merveilleux.
Et donc, c'est dans ce livre qu'il y a cette phrase qui m'avait déjà donc touché, c'est que le bonheur est comme un sillage, il suit fidèlement celui qui ne le poursuit pas. Et ça, c'est vrai. Donc, je m'en suis rendu compte par la suite. Oui.
Eh bien, alors, on ne peut qu'inviter nos auditeurs, on est en fin d'année 2019, on oui. rentre dans une nouvelle année. Vous nous avez dit que, par moment, un livre peut changer une vie. Il y a un avant et un après. On ne peut qu'inviter les auditeurs à aller chercher des livres qui vont vraiment les nourrir. Vous en avez nommé un certain nombre, mais je pense même que le récit, votre récit, Michel, je pense que vous pouvez nous dire, il y a eu un avant et après le livre de Francis Ganry.
Ah, bien sûr, oui. Parce que ça m'a apporté cette reconnaissance de tout ce que ces agriculteurs de l'ancien temps oui. étaient proches de la nature. Et vous dites que toute cette nature, ça, moi aussi, je me promène tous les jours dans les bois et la nature, ça vous apporte une richesse.
Ah oui, oui, oui. Et moi, je suis convaincu que pour nos enfants, il leur faut... Alors, les enfants des villes, eh bien, écoutez, mettez-les chez les scouts. Voilà. C'est ce que me disait un ami journaliste de RCF Maguelone à Montpellier avant-hier. Il me disait, mais votre livre, moi, ça me conforte dans le fait que le scoutisme est très important parce que c'est l'école de la nature, les scouts... Ils sont à l'école de la nature. Et pour moi, la seule école qui puisse nous donner les forces, la force après d'être heureux, pour être heureux, pour surmonter les épreuves, et ben c'est l'enseignement de la nature quand on est enfant. Enfant, c'est okay. important. C'est trop tard après si on est adulte. Hein. Donc il faut l'enfant, il faut le mettre à l'enseignement de la nature.
Enfin, on peut espérer que ce n'est pas non plus trop tard, rien n'est impossible à Dieu. N'empêche que c'est un très beau récit que vous nous avez fait. Merci beaucoup d'avoir
oui,
mis
alors
ça
par écrit. Je voulais ajouter aussi que Jean-Michel, dont oui. je parle, a préfacé le livre.
Et qu'est-ce qu'il est devenu ?
Alors Jean-Michel, il est moine dans un petit monastère de l'Ardèche, à Sanilhac. Il est responsable de ce monastère.
Et comment s'appelle-t-il ?
Frère Jean-Michel.
Et le monastère, la communauté ?
La communauté Notre Père.
Eh bien, c'est magnifique. Merci à Michel Archimbault d'avoir lu ce livre et d'avoir dit « il faut l'inviter, Francis ».
Avec grand plaisir.
Merci à vous, Francis, d'être venu en studio nous en parler.
Ben merci beaucoup.
Et je rappelle juste le nom de votre livre, paru aux éditions Saint-Léger. « Qui m'a tenu la main le jour de mon certificat d'études ? Récit d'un témoin du monde paysan et de la foi ». Et l'auteur, c'est vous-même, Francis Ganry.
Merci.